Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
J'aimerais partager avec vous d'abord quelques réflexions que je me suis faites sur le fait de rendre un culte, puisqu'on est ensemble pour un culte. Et tout d'abord, de réaliser ce qu'on est appelé à faire ensemble. Il y a quelque chose qui me revient d'il y a quelques années. Quelqu'un dans une église protestante avait dit, regardez la forme des bancs par exemple. La forme des bancs est là vraiment pour qu'on soit assis. Et dans l'église protestante où j'ai grandi, effectivement, il y a même des bancs qui sont tellement serrés l'un contre l'autre que si vous êtes debout, vous ne pouvez pas bien tenir la position debout. C'est fait pour être assis parce que l'église protestante, à un moment donné, il y a eu un mouvement de réforme et on a mis tellement l'accent sur la parole que les cultes, c'était surtout des cultes pour écouter. Donc écouter la parole, ce qui est un élément d'un culte. Dans une église catholique, par exemple, ben vous avez les bancs pour s'agenouiller. J'appelle ça des bancs. Hein. Donc, il y a une possibilité pour s'agenouiller. Dans une église orthodoxe, je ne sais pas si vous le saviez ou non, mais il n'y a rien. Les gens sont debout. Et pendant 3 heures que dure leur célébration. Hein. Donc, vous pouvez avoir toutes sortes de formes, mais l'important pour nous, ce n'est pas la forme ou la façon dont on est, mais qu'est-ce qu'on y fait réellement ? Et donc, on a eu l'occasion, dans nos soirées de prière du mardi, de plusieurs fois se rappeler de certains principes qui sont ceux que Jésus a indiqués. Et je me rappelle, il y a quelque temps, nous avions vu ensemble Jean 4, au verset 24, où il est dit que « Ce que le Père demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. » Et j'avais dit, et ce mot « demande » en anglais, par exemple « to demand », ça ne veut pas juste dire demander, mais ça veut dire exiger. C'est ça ou rien du tout, c'est radical. Mais Dieu ne veut pas des adorateurs de je ne sais quoi, mais en esprit, parce qu'on est en communion avec lui en esprit. Ensuite, on a eu l'occasion aussi de voir, à un moment donné, certaines réalités spirituelles. Si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents, dans 1 Corinthiens 12, Paul nous dit qu'il ne veut pas qu'on soit ignorant en ce qui concerne les dons spirituels. Et une autre traduction de la Bible que j'ai prise, ça dit, je ne veux pas que vous soyez ignorant des réalités spirituelles. Donc ça nous fait entrer dans un monde spirituel, où c'est pas un monde bizarre ou mystique, c'est simplement un monde dans lequel nous sommes en relation avec Dieu notre Créateur, que nous ne voyons pas, mais avec qui nous sommes en communion, en esprit. Donc c'est important qu'on réalise que si on veut apporter à Dieu un culte qui lui soit agréable, il faut que ce soit un culte dans l'esprit. Alors, rendre un culte, on a plusieurs exhortations. Dans Romains 12, 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Intéressant, un corps vivant. Il n'est pas dit là de mourir. Il est dit de vivre pour Dieu. Dieu, c'est celui qui a créé la vie. Ce qu'il veut, c'est pas des gens qui se mortifient, c'est pas des gens qui se sacrifient, je suis désolé de le dire, bêtement, ou qui recherchent la mort comme quelque chose qui serait merveilleux. Hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour dire quelles sont les réalités de notre monde actuel. Et donc, ce culte est agréable à Dieu, de s'offrir à lui d'une façon vivante, sainte, ça veut dire être mis à part pour lui, faire une différence entre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que quand on y réfléchit, ça a même du sens. C'est pas juste un truc bizarre qu'il faut faire. Maintenant, tu comprends rien, c'est pas logique, c'est pas rationnel, mais fais-le quand même. Non, c'est même, quand on y réfléchit, ah bah oui, ça a du sens. Dieu qui nous a créés, qui nous aime, il veut qu'on vive dans sa présence et d'une façon vivante. Donc, avant, vous allez voir quand c'était avant, dans 1 Corinthiens 9, 13, l'apôtre Paul, il écrit à des gens qui en général connaissait l'Ancien Testament et la façon dont ça se déroulait, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel ?» Donc là, on a la description d'un culte tel que la plupart des gens le conçoivent, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes du service du culte, des prêtres, quel que soit le nom qu'on leur donne, c'est eux qui exercent le culte pour tout le monde. C'est pour ça que je dis ça, c'était avant. Ça, c'est la conception de la plupart des religions. Mais pour qui te prends-tu, toi, simple quidam? Tu peux pas comme ça t'approcher de Dieu. Il te faut quelqu'un qui soit spécifiquement mis à part, préparé et désigné pour ça. Donc, l'apôtre Paul dit, c'est de cette façon que ça se passait. Les gens allaient dans le temple, c'était des prêtres, ils étaient préparés à ça, et en même temps, les offrandes servaient à leur nourriture et à leurs besoins, etc. Et donc, dans certaines dénominations chrétiennes, vous savez combien il y en a? Dernièrement, j'ai lu un article. Il y a à peu près 41 000 dénominations chrétiennes dans le monde. Voilà, des noms différents d'églises. Si vous aviez pensé qu'il y a juste catholiques et protestants, il y en a 41 000 différents qui existent. Et pourtant, hein, là, on est loin de la simplicité de l'évangile. L'apôtre Paul disait, il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Donc, dans toutes ces différentes pratiques chrétiennes, certains utilisent encore le nom de prêtre, d'autres... Chez les protestants, on va utiliser le nom de pasteur, mais en réalité, le pasteur va faire une fonction de prêtre. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est de comprendre, est-ce que cette personne se met entre moi et Dieu, ou est-ce qu'elle m'aide simplement à aller directement à Dieu? C'est ça la différence. C'est pas une différence de forme ou de pratique, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer au culte quand on y est. Donc, on a déjà débattu dans notre assemblée, dans notre église. Ici, on ne veut pas que les gens aillent à l'église. On veut qu'ils comprennent qu'ils font eux-mêmes partie de l'église, qu'ils sont l'église. Voyez, vous n'allez pas à un endroit. En plus, cette maison n'a pas de clocher, vous rendez compte, de handicap. Mais donc, on ne va pas à un bâtiment qui est l'église. On ne va pas non plus à un endroit où les autres seraient l'église. Mais je fais moi-même partie de l'Église. Je suis l'Église, corps de Christ, pour ma part, mais pas tout seul. Donc, vous voyez, c'est de nouveau la question, la fameuse, être ou ne pas être. Être l'Église ou simplement aller à un endroit où il y a une Église, ou aller à un endroit où les autres sont l'Église. Non, je dois réaliser, j'en fais partie de ça. Donc, est-ce que je vais au culte? Est-ce que j'assiste au culte? Est-ce que je participe à un culte? Où est-ce que je rends un culte à Dieu? La semaine dernière, on avait un visiteur, c'était une première, et donc pour lui, de l'avoir au milieu de nous, mais la question c'est pas, alors, comment c'était? Comment t'as trouvé le culte? Ça c'est une mauvaise question. C'est, comment est-ce que toi, tu as vécu ton culte? Comment tu as rendu un culte à Dieu? Ça c'est la seule vraie question. On ne va pas à l'église ou au culte comme si on allait au cinéma. Alors, es-tu bien le film? Ça t'a plu? Non, c'est pas ça. C'est, on vit autre chose. Donc, je vous ai dit que c'était avant. Mais maintenant, dans Philippiens 3:3, il nous est dit, en effet, les vrais circoncis, parce qu'il y avait tout un débat du temps des premiers chrétiens sur les circoncis. Alors, les circoncis, c'est cette particularité que certains vivaient pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait être circoncis. Et donc, il y avait des débats. Est-ce que vous faites vraiment partie du peuple de Dieu ou non? Ben, Paul disait, les vrais, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, c'est pas des choses extérieures. C'est pas juste une forme, c'est une réalité. Et il dit là, dans cette version que j'ai, nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ. Notre fierté. Des fois, on est fier de quelque chose sans qu'on y ait spécialement participé. Voilà, cette semaine, un nageur français a eu la médaille d'or des championnats d'Europe. Ah, je suis fier. J'ai rien fait pour. J'ai pas entraîné. J'ai pas. Mais il y a des sentiments comme ça. Mais nous, ici, on place notre fierté en Jésus-Christ parce que, ben voilà, c'est notre Seigneur et Sauveur, c'est notre grand frère, c'est notre héros, c'est lui qui a tout accompli. Et il dit, et nous ne mettons pas notre confiance dans notre condition. C'est la vieille version qu'on utilise d'habitude, c'est notre confiance dans la chair, dans les choses humaines, dans les choses qui sont simplement naturelles. Donc voilà un peu ce que je voulais introduire, la façon dont on aborde le culte. Alors, il y a différentes formes de culte. Certains disent des fois, on fait des cultes d'évangélisation. Je comprends ce qu'on veut dire par là. On fait une réunion qu'on veut attractive pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Mais en réalité, avec ce que je viens de dire, c'est pas vraiment un culte. Ça porte encore le nom, mais on le fait en direction des autres. Si tous nos cultes, dans tout ce qu'on fait dans les cultes, c'est dirigé seulement les uns vers les autres, alors ça ne va plus. Il y a quelque chose qui manque. La dimension, c'est celle que j'ai avec Dieu. Et quand je parlais tout à l'heure des dénominations, mais je me rappelle en tant que jeune homme où j'intervenais déjà pour enseigner, pour prêcher, des fois dans une église où nous étions, des fois le pasteur ne pouvait pas venir, il me téléphonait, il disait « Claude, tu fais le culte dimanche ». Et c'était vraiment symptomatique, tu fais le culte dimanche. Ça voulait dire tu t'occupes de tout, tu organises, tu prêches, etc. C'est présent partout un peu dans l'idée des gens. Alors là, nous sommes appelés par Dieu amener cette idée qui est révolutionnaire depuis 2000 ans. C'est pas tout neuf, hein. On disait tout à l'heure des choses nouvelles, mais pour beaucoup de gens, c'est encore nouveau. C'est une nouvelle conception. Rendre un culte à Dieu. Être là pour lui. Une autre forme de culte, on pourrait dire, voilà, on peut faire un culte spécial jeune, qui soit de nouveau le côté attractif. Pour que les jeunes passent un bon moment, qu'il y ait une louange, pop-rock, ou des choses comme ça, on peut toujours dire, bah, c'est mieux que s'ils vont en boîte, ils côtoient les drogues, la débauche, etc. Même si c'est excellent, mais ce n'est pas la finalité du culte, qu'on passe un bon moment. Sinon, on est en train d'adorer l'adoration, au lieu d'adorer le Créateur. Donc, nous, on est là pour nous encourager chacun, disant, aujourd'hui, fais un pas de plus avec Dieu. Expérimente quelque chose de nouveau que tu n'as jamais vécu. Entendre sa voix d'une façon nouvelle, une direction, quelque chose. Donc, vous êtes venu, mais êtes-vous prêt? Vous êtes-vous préparé? Est-ce que vous avez reçu quelque chose à partager? Des fois, on a l'impression, oh, c'est ma petite routine, mon petit train-train. Non, tout ce que vous vivez avec Dieu peut être une source d'encouragement pour quelqu'un. Et des fois, vous pouvez avoir aussi une parole particulière. C'est là aussi dans nos soirées qu'on avait partagé l'autre fois 1 Corinthiens 14, 26, qui pour moi est une démonstration du culte dans l'esprit tel qu'il devrait se faire. Il nous est dit, que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc chacun peut à un moment donné avoir reçu quelque chose à partager. Et si vous êtes venu et vous étiez occupé, vous n'êtes pas préparé spécialement, vous n'avez pas spécialement prié, ben, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, disant Seigneur, utilise-moi ou fais de moi une source de bénédiction, donne-moi une parole, ou vous pouvez toujours le faire. Donc nous sommes là pour partager les réalités spirituelles. Et là, après avoir vécu quelques semaines ou quelques mois ou quelques années avec le Seigneur, à un bout d'un moment, il faut voir comment est-ce que j'ai grandi, qu'est-ce que je maîtrise. Parce que je crois que c'est ça qui est important. La maîtrise, c'est un mot qu'on utilise, par exemple, maintenant on utilise plutôt le mot master, hein, à l'anglaise, mais la maîtrise, il y a encore quelques années, c'était... un diplôme universitaire, 4 ans bac plus 4, c'était la maîtrise. Pour d'autres, dans d'autres professions, c'est un apprentissage et puis des examens. Et puis on peut avoir la maîtrise. En général, la maîtrise ouvre la voie pour un métier et pour prendre des apprentis. En dessous d'un certain niveau, vous pouvez pas prendre des apprentis. Donc maîtrise, ça veut dire je maîtrise suffisamment pour que d'autres puissent maintenant apprendre de moi. Donc là aussi, on est toujours appelé, pas seulement on voyage tout seul, mais au bout d'un moment, eh ben, on maîtrise pour que d'autres puissent aussi rentrer dans les choses qu'on a découvertes. Alors, les choses qu'on a découvertes, ben, on les a reçues par donner le nom que vous voulez, un message, un sermon, une prédication, une homélie, une exhortation, un enseignement, un partage. Peu importe la forme que ça lui donne, le titre que ça prend, mais à un moment donné, il y a une parole qui est donnée. Mais vous savez que très facilement, on rentre dans ce que nous sommes actuellement en train de faire. Il y a un qui parle et les auteurs écoutent. Et au bout d'un moment, il faut absolument le transformer en quelque chose. Sinon, on ne va jamais grandir spirituellement. Donc, dire et écouter des nouvelles, là, c'est vraiment le truc. On dit qu'on est dans la société maintenant de l'info. L'info circule. Mais des infos, pourquoi faire? Il y a des gens qui sont gavés d'infos, mais qu'est-ce qu'ils en font? Ça leur sert à être de plus en plus inquiets, par exemple. Si vous entendez toutes les menaces de l'islam et des terroristes, les problèmes qu'on peut avoir avec les retraites, les déficits, parce que il y en a aussi beaucoup, la croissance qui est nulle, et vous avez ces infos en continu, en boucle, et donc les infos en boucle, au bout de quelques minutes, vous avez entendu tout ce qu'il y avait à entendre. Après, ça recommence. Et quand vous avez la vidéo, par exemple, pour les télévisions maintenant d'infos continues, alors la vidéo, vous l'avez vue une fois, deux fois, trois fois, et c'était toujours la même vidéo. Alors le footballeur qui la semaine dernière a cassé le nez de l'adversaire après le match, vous pouvez le voir. Et au bout d'un moment, ils vous mettent un petit rond rouge pour vous montrer celui qui va s'approcher de l'autre et qui va le frapper de sa tête pour qu'il ait le nez cassé. Et alors, on regarde ça comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Et ah, mais c'est passionnant ça, c'est vraiment intéressant. Non mais une fois qu'on l'a vu, ça va. Mais quand on vous dit, par exemple, tout à l'heure dans l'exhortation de Jérémie, que Dieu veut nous communiquer des choses nouvelles, qu'il veut faire des choses nouvelles dans notre vie, là, il n'y a vraiment rien de nouveau. Et les infos, au bout d'un moment, elles sont vraiment complètement périmées. Parce qu'on entend toujours les mêmes choses, ça prend des fois d'autres formes, et vous vous retrouvez dans la même situation, tenez-vous bien, que les Athéniens il y a 2000 ans. Acte 17, 21, il nous est dit, « Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter les dernières nouveautés. » Voilà, on est là dans l'actualité. Quelqu'un a dit, « La Bible est plus actuelle que le journal de demain matin. » On a déjà tout dedans. Le pasteur Rick Renner, qui est de Moscou, enfin qui est à Moscou actuellement, son petit slogan, c'est « Attendez-vous à recevoir quelque chose de nouveau de la part de Dieu aujourd'hui. » Toujours il dit ça. Attendez-vous à recevoir quelque chose de nouveau de la part de Dieu aujourd'hui. Et en général, il termine, et maintenant je vous ai donné de quoi réfléchir. Donc il y a toujours ces petits avant et après. Alors ne dites pas, je sais déjà tout ça, parce qu'il y a un moment où la parole de Dieu nous dit, dans l'autre version c'était un scribe, et dans cette version il nous est dit un spécialiste de la loi. Dans Matthieu 13, 52, Jésus a dit, c'est pourquoi tout scribe ou spécialiste de la loi, instruit de ce qui concerne le royaume des cieux, il ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc vous pouvez puiser dans des choses nouvelles et des choses anciennes. Je vous assure qu'après avoir lu la Bible des dizaines de fois, il y a des choses qui sont étonnantes, où on a l'impression, je les lis pour la première fois, j'avais jamais vu ça, et ça prend une tournure toute nouvelle. Et en même temps, il y a des choses que nous avons besoin de réentendre. Encore et encore et encore et encore. Comme votre corps a besoin tous les jours d'un équilibre de vitamines, de nutriments, de toutes sortes. Je suis des fois émerveillé de réaliser à quel point notre corps est réglé d'une façon précise. Si vous faites un bilan sanguin, hein, vous savez que certaines choses, il faut que ce soit dans telle ou telle fourchette. On a l'impression, oh, c'est presque rien du tout, hein. Un 0,01 et vous êtes détraqué. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, ça a été réglé par notre Créateur pour que ça marche pendant des dizaines d'années. Et notre cœur, pendant ce temps, il bat depuis le début, depuis avant la naissance. Le petit cœur, il bat déjà. On le voit à l'échographie. Et puis, il battra jusqu'au bout. Toujours, tous les jours, toutes les nuits, sans s'arrêter. C'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 139, il disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il reconnaissait tous les détails de comment on a été formé. Donc je dis l'équilibre qu'on a besoin. De recevoir toute cette différente nourriture, eh bien, c'est valable aussi pour notre esprit, de recevoir cette nourriture. Donc, vous mangez ce que vous avez décidé. Quelque part, vous aurez des féculents, alors que ce soit des pommes de terre ou des pâtes ou du pain ou du riz. Mais à un moment donné, il faudra tous les jours que vous ayez cette base, plus ou moins. Donc, il y a une base. Alors, on pourrait dire, encore cette nourriture. Eh bien, là encore, dans la Bible, à un moment donné, le peuple de Dieu, dans le désert, il s'est impatienté. Dans Nombre 21:4, le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte? C'était si bien l'esclavage de Pharaon, quand on devait trimer, qu'on recevait des coups de fouet, là j'en rajoute. Mais en fait, on oublie rapidement. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On est en train de mourir dans le désert. Il n'y a pas de pain ni d'eau. Et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Ils appellent misérable nourriture une nourriture surnaturelle, céleste, qui s'appelait la manne, qui tombait chaque nuit, le matin c'était là, et c'était parfaitement équilibré, et il y avait tout dedans pour leur bonne santé. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour le produire, il y avait juste besoin de le ramasser et de le manger. Mais l'esprit humain est comme ça, que si on ne l'entretient pas, la reconnaissance, la louange, si on ne sait pas pourquoi je suis là, c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Il m'a sorti de l'esclavage. On oublie les choses importantes. On est en train de se plaindre de cette misérable nourriture. Et donc, de cette même façon, nous pouvons être dans une situation, on se laisse aller, on se plaint de ce que nous avons, et on se plaint aussi, des fois, de la parole de Dieu. Oh, ce que le pasteur il me raconte là, ouais, je l'ai déjà entendu. Ou alors, je suis dans un passage à Bible. Ouais, mais ça, je l'ai déjà lu des dizaines de fois, c'est toujours la même histoire, dans la même histoire, parce que la Bible, c'est un livre vivant, c'est une nourriture spirituelle, votre esprit en reçoit quelque chose. Il ne s'agit pas simplement de satisfaire votre curiosité intellectuelle. Quel mystère puis-je encore découvrir dans la Bible? Ce n'est pas seulement ça, c'est simplement une nourriture. Si vous êtes amoureux et que vous ne voyez pas la personne que vous aimez, simplement d'entendre le son de sa voix vous fait du bien. Simplement ça. La parole de Dieu, c'est ça. Même si ça ne me parle pas parce que ça me décrit quelque chose, mais simplement de savoir, c'est la voix de mon Père Céleste. C'est la voix du bon berger. Ça fait déjà du bien. Donc, lisons encore la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, on connaît ça, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, approchez-vous de la parole de Dieu avec avidité, avec reconnaissance, et ne permettez pas à aucun murmure de dire « Oh, encore ça, blablabla. » Non, on refuse. Quand je disais tout à l'heure que Rick Renner disait toujours « Attendez-vous à recevoir quelque chose de nouveau. » Là, il y a aussi une particularité. J'ai eu l'occasion dernièrement de dire que Dieu a créé les vaches avec leur système digestif pour nous enseigner sur la méditation et le fait qu'il faut repasser des choses en nous. Il a créé aussi un autre animal qui est le chameau, qui est capable de mettre beaucoup de réserves dans sa bosse et donc de traverser le désert et d'y puiser. Et l'apôtre Paul nous dit, 2 Timothée 2,14, « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. » Alors si vous avez, je vous le souhaite, un bon dépôt dans votre compte en banque, ce n'est pas pour qu'il soit déposé à toujours. Sinon, ça n'a pas de sens. Des fois, on a découvert des gens qui étaient morts dans la misère. Et on a découvert sous le matelas, il y avait des millions ou des trucs comme ça, des choses bizarres. Mais les richesses que Dieu nous donne sont là pour qu'elles circulent, qu'elles participent à la bénédiction de quelqu'un, que nous on puisse jouir de certaines choses, ou donner à ceux qui sont dans le besoin, ou faire toutes sortes de choses avec, mais en tout cas pas stocker. Et là, il nous est dit, pendant un moment, on peut garder le bon dépôt, mais ce dépôt, il est là pour qu'on puisse y puiser au moment où on en a besoin. Donc spirituellement, c'est la même chose. Vous emmagasinez des choses en vous, Et il y a des choses que vous emmagasinez, que vous entendez en ce moment même, que vous n'êtes pas toujours conscient d'entendre. Mais ça pénètre dans votre esprit. Et Dieu peut vous permettre d'y puiser de nouveau au moment où c'est nécessaire. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et c'est pourquoi nous nous rappelons qu'on ne vit pas seulement, notre vie n'est pas seulement constituée même de nourriture spirituelle, mais aussi de l'exercice. Il faut en faire quelque chose. Quand on ne fait que manger sans faire de l'exercice, sans travailler, alors on commence à accumuler et on ne fait que grossir. On n'est pas en train de grandir ou de se développer en force. Et donc, il y a des choses que nous devons réaliser, que au travers de toutes les choses partagées, aussi ces derniers mois, il faut qu'on les réutilise pour dire qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais les utiliser à mon profit. Et je voulais juste survoler, parce que j'ai fait ce petit exercice des derniers mois de ce qu'on a entendu ici. Mais vraiment, vraiment le survol, parce que ça ne servira à rien que je redise la même chose, on peut l'écouter sur l'enregistrement. Mais je voulais juste vous dire que nous avons parcouru un cycle héroïque, si vous vous rappelez. On a parlé des héros. Nous sommes des héros, nous sommes appelés des héros. Et on avait pris, entre autres, parce que ça on ne peut pas le louper, hein, Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel l'interpelle et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Donc nous sommes tous dans cette situation de Gédéon. Parce que quelle était la situation du peuple de Dieu à l'époque ? Oppression de l'ennemi. Il y a une grande et forte oppression dans le monde actuellement. Pas besoin de vous faire un dessin. On n'a pas quelque part un pays où on serait à l'abri et tout serait merveilleux et beau. Ça n'existe pas. Dieu exerce parfaitement son autorité, son contrôle dans son royaume. Mais Satan est le prince de la terre. Il est le prince de ce monde. Et dans ce sens, nous sommes les résistants d'un monde occupé. Et le royaume de Dieu peut s'étendre avec notre action et Dieu peut exercer le contrôle partout où il y a des êtres humains qui lui donnent le contrôle. D'accord ? Mais il ne l'exerce pas d'une manière dominatrice sur des gens qui ne veulent rien de lui. Il sait par contre stopper certaines méchantes actions dans certaines situations. Mais il y a clairement une guerre. Donc, le cycle héroïque, c'était pour réveiller en nous cette volonté d'être les héros de chaque jour. La deuxième chose que nous avons partagée sur plusieurs choses, c'est d'avoir de l'assurance, si vous vous rappelez. Là aussi, j'ai trouvé un passage qui résume un peu ça. Lorsqu'un de mes neveux a partagé, peut-être vous en avez entendu parler cette semaine, que d'après certaines recherches scientifiques, nous sommes arrivés au point de non-retour au niveau de la planète Terre. On a fixé le 18 août pour dire que voilà, maintenant, l'humanité est en train de consommer plus de ressources que la planète Terre ne peut en régénérer. Donc on est en train de piller complètement la planète, on le fait depuis des siècles, mais maintenant il y a des milliards de personnes qui consomment plus que ce qui est humainement possible de pouvoir sortir de cette planète sur laquelle nous sommes. Alors j'ai mis comme commentaire à cette publication, nous sommes donc à la fin des temps de la fin. On s'approche vers quelque chose que nous croyons en tant que chrétiens, que Dieu prépare, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est une réalité biblique. Le millénium, les 1000 ans où le Christ va revenir, qui sont annoncés dans la parole de Dieu. Mais en attendant, nous savons qu'il y a des manifestations. Par exemple, il y a deux mots. Il y a l'antéchrist, anté voulant dire avant, et l'antichrist voulant dire contre. En tout cas, il y a une manifestation dans le monde pour tout ce qui vient du Christ, de celui qui est oint, celui qui a été envoyé par Dieu. On rejette les choses, nos valeurs, on va dire judéo-chrétiennes qui ont été transmises pendant des siècles, et même si tout n'était pas parfait, mais en tout cas maintenant, elles sont massivement rejetées par un certain nombre de personnes. Et donc, dans ce contexte, nous lisons la prophétie du livre de Daniel, Daniel 11, 32. Il nous est dit « Il corrompra » et là nous comprenons que c'est la manifestation de l'esprit de l'Antéchrist, L'antéchrist, il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. Ceux qui ne respectent pas l'alliance avec Dieu vont être corrompus. Corrompus, ils n'ont plus le sens de ce qui est bien et mal, ils sont livrés au péché. Mais les membres du peuple de Dieu, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. C'est ce que nous sommes appelés à être, perspicaces, voir ce qui se passe dans le monde autour de nous et instruire autour de nous, donner des conseils, de dire comment les gens peuvent se réconcilier avec Dieu, marcher avec Dieu, faire partie de son peuple. Donc voilà, ça c'était par rapport à l'assurance. Donc agir avec fermeté, c'est la conséquence de l'assurance. Et nous avions vu, si vous vous rappelez, plusieurs passages de la Bible où nous pouvions particulièrement avoir de l'assurance. Avoir de l'assurance du salut, être sûr de lui appartenir, de la prière, de la victoire dans l'épreuve, du fait qu'il nous conduise, et donc il y avait un certain nombre de choses. Et la troisième chose qu'on a partagée ces dernières semaines et mois, c'est les choses en vous. Faites-les vivre. Qu'est-ce qu'on avait vu, par exemple, comme titre ? Il y a un livre en vous, si vous vous rappelez de ça. Vous avez des choses à partager autour de vous. Vous avez des choses que les autres veulent entendre, voir. Donc, pas de fausse modestie. Vous avez des choses de valeur en vous. Partagez-les. On avait vu que vous dit votre cœur, encore une fois, pour entendre ce qui se passe autour, au fond de vous-même. Donc, et on avait vu aussi, on a le droit d'être heureux, mais pas tout seul. Hein? Donc, que Dieu veut pas qu'on ne vive plus, mais il voudrait que, au travers de ce que nous expérimentons avec lui, on peut aussi le partager à d'autres. Et le dernier, ce qu'on a vu le plus récemment, c'était vous vivez votre vision. C'est-à-dire, la façon dont vous voyez les choses, ça formate, ça forge le modèle de la personne que vous êtes maintenant. Comment est-ce que vous vous voyez vous-même? Et de voir qu'on peut aussi avoir une nouvelle vision reçue de Dieu. Et donc, je veux terminer par encore un exemple sportif de dimanche dernier. J'ai observé la course de relais des femmes. C'était celle du 4x100 mètres qui a eu lieu en Suisse. Et donc, comme on était en Suisse et que les coureuses suisses avaient bien couru pendant les épreuves de qualification, donc la caméra fixée sur, et voilà, toute l'attente du peuple, elle est sur les coureuses suisses, et dès qu'il y a eu le départ, elle a fait quelques pas, elle a trébuché, elle est sortie de la ligne, toute l'équipe est éliminée, c'était déjà terminé. Un peu plus loin, on a vu l'équipe des Hollandaises, alors course de relais, ça veut dire on passe le témoin. Et donc il y en a une qui tendait le témoin vers derrière et l'autre qui essayait de l'attraper, le témoin est tombé par terre, éliminé. C'était vraiment, je veux dire, passionnant de voir comment en quelques secondes peuvent se passer plein de choses. Et finalement, ben voilà, fierté française du coup, nos filles ont pu gagner la médaille d'argent de cette course. Mais ça c'était juste pour dire, il n'y a pas de succès sans successeur. Vous pouvez faire des trucs super, mais si vous le passez pas plus loin, si vous le donnez pas à quelqu'un d'autre, ma définition du succès, c'est que ça aille plus loin. On voit des fois des gens, ils ont construit une entreprise florissante et tout, et après, voilà, les enfants, ils veulent pas reprendre, donc il n'y a pas père et fils de génération en génération. Il y a tout le travail d'une vie qui peut être stoppé. Donc, que tout ce que vous vivez, le travail de Dieu dans votre vie, si vous puissiez le passer à d'autres. Et donc, voilà, je ponctue par encore une petite référence biblique. Dans 2 Timothée 2, au verset 2, je crois, si je me rappelle bien. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, il y a toujours cette transmission d'une personne vers l'autre. Et quand je vous parlais au début de maîtrise, on voit que quelque chose est vraiment maîtrisé, qu'un élève a compris quand il est capable de l'expliquer. Avant, c'est pas vraiment emmagasiné, c'est pas vraiment enregistré. C'est pas, je l'ai entendu, oui, il a dit à peu près ceci, cela. Non, c'est quand tu le connais assez bien pour pouvoir le redonner, le donner à quelqu'un d'autre. C'est là que tu as une vraie maîtrise. Donc voilà, ça c'est le mot d'ordre. du Seigneur pour nous aussi, ce que tu as entendu de lui-même, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles. Transmettez ce que vous avez reçu. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.